Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour Yannick Olivier.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir pour cet épisode spécial qu'on va appeler « Pourquoi je suis commissaire aux comptes ?»
Moi aussi, je suis ravi d'être avec toi.
Et avant qu'on commence, qu'on parle de votre passé, comment vous avez fait pour devenir président, le présent et votre futur, j'aimerais faire une petite présentation de vous. J'ai utilisé l'intelligence artificielle, ChatGPT, pour vous décrire. Et j'aimerais que vous me disiez si c'est OK.
Parfait.
Alors, profession commissaire aux comptes et expert comptable, vous êtes président du cabinet Fiteco. Yannick Olivier a une longue carrière dans le secteur de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Avant de devenir président de la CNCC de 2020 à 2024, il a occupé le poste de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Caen de 2013 à 2015. En politique, il est très engagé dans la défense de la profession et travaille activement à la modernisation de l'adaptation des pratiques professionnelles face aux nouvelles régulations et attentes du marché. Sous sa présidence, la CNCC a notamment travaillé sur des sujets tels que la certification extra-financière dans le cadre de la directive CSRD et l'amélioration des procédures disciplinaires pour les commissaires aux comptes. Récompense, il a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur en janvier 2024. Est-ce que c'est juste ?
Oui, tout ce qui a été dit est assez juste. Oui, voilà, il y a toujours quelques subtilités, mais je dirais que sur le fond, c'est assez représentatif de mon parcours, en tout cas, enfin, de ce que j'ai pu faire ces dernières années. Ouais.
Eh ben moi, j'aimerais qu'on aille dans le détail un petit peu sur votre passé. Et à quel moment de votre vie vous êtes dit, Yannick Olivier, il va devenir commissaire aux comptes ?
Ah, c'est une bonne question. En fait, assez tôt, en fait. Je vais vous surprendre, ado. J'avais, je sais pas pourquoi, maman travaillait dans le monde de la banque. Elle était amenée à travailler dans des opérations de financement assez significatives. Et quand elle me parlait de son travail, elle me disait souvent qu'autour d'elle, dans les opérations qu'elle réalisait, elle était accompagnée d'avocats, d'experts comptables, de commissaires aux comptes. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir ce métier, donc très très jeune, j'avais 13-14 ans. Et j'ai trouvé ça génial parce que dans la façon qu'elle le disait, la façon qu'elle le présentait, elle valorisait l'importance de la présence de ces personnes, de ces professions réglementées à ses côtés pour faire réussir les projets. Et je me suis dit, tiens, je trouve que c'est sincère, sympa ces métiers-là. Alors à l'époque, je ne connaissais pas toutes les subtilités entre un notaire, un expert comptable, un commissaire aux comptes, etc. Mais je trouvais que c'est ce rôle de conseiller, ce rôle de partenaire de confiance, ce rôle finalement qui participe à la réussite des projets économiques, des projets de développement, était assez intéressant. Et c'est assez vite que j'ai eu la vocation. Et ça m'a jamais quitté. C'est-à-dire qu'assez vite, j'ai construit ensuite mon projet scolaire et professionnel pour me diriger vers l'expertise comptable et le commissaire aux comptes.
C'est impressionnant, déjà très jeune, avec le regard de votre mère qui vous a orienté vers ça. Et ce titre, commissaire aux comptes, vous n'avez pas trouvé que c'était un peu plutôt dans la direction, on va dire, gendarmerie, policier? C'est souvent ça qui est mis en avant. Avec le titre commissaire, souvent on se dit « Ah !»
Alors c'est vrai que commissaire, ça renvoie un peu au côté policier,
oui,
c'est clair.
Comte
d'ailleurs, ça enferme. Sauf que, comme toute personne derrière l'intitulé, je suis allé chercher aussi ce qu'il y avait derrière, ce que signifiait ce rôle-là. Alors, ce que j'aimais bien quand même dans la notion de commissaire aux comptes, c'est que je voyais bien que derrière, on voyait l'idée d'une mission d'utilité publique. Et ça, c'était pas mal. Alors après, effectivement, le côté un peu policier ou contrôle, c'était pas forcément ce qui m'attirait. Mais l'idée que je participe à une profession qui soit réglementée, qui ait une éthique, une déontologie, déjà, c'est très marqué chez moi. J'ai été très attaché. Et donc finalement, quand j'ai découvert que derrière le terme commissaire aux comptes, c'était absolument pas un rôle de contrôle, mais plutôt quelqu'un qui appréhendait l'analyse des risques d'une entreprise, de ses enjeux et du fait de sa présence, même si c'est un acteur qui justement est particulièrement indépendant, qui va être exigeant et qui saura prendre des décisions fortes, il le fait toujours dans l'intérêt du collectif et l'intérêt du développement économique. Et donc finalement, j'ai trouvé que ça conciliait deux sujets qui me passionnaient et que le mot commissaire qui aurait pu peut-être dans un premier temps effectivement m'éloigner, c'est assez vite effacé derrière la réalité du terrain.
Ça vous a pas fait peur de voir les longues années d'études qu'il a fallu faire ? Disons, on part sur un Bac+7, Bac+8. J'ai 13 ans, 14 ans, on verra ça plus tard. On avance, on se pose pas de questions.
Non, à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, je m'étais pas encore projeté au point. C'est plutôt quand je suis arrivé lycéen et que j'ai commencé à regarder un peu le post-bac. Oui et non, parce que en fait, l'avantage aussi des métiers d'expertise comptable, c'est qu'il y a plein de voies d'accès. Et donc, j'ai pas forcément, en fait, du coup, je n'ai pas été amené à faire un cursus DCG, DSCG.
D'accord.
J'ai eu la chance d'intégrer Dauphine et donc de faire une formation assez généraliste, de haut niveau, de spécialiser dans la finance. Et je savais que, bien que je m'intéressais à des sujets qui n'étaient pas forcément directement la voie pour accéder à l'expert comptable, j'avais, grâce aux équivalences du V, la possibilité de faire ça. Et donc, je l'ai fait en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, je suivais mon cursus, à l'époque, c'était une maîtrise de gestion à Dauphine, et l'été, je préparais mes UV. Et donc, j'ai réussi à... Donc, en fait, et c'était un plaisir. C'était pas une contrainte, j'étais pas obligé de le faire. Et je les ai portés comme ça. Et puis ensuite, j'ai d'ailleurs été faire un troisième cycle dans l'audit interne, donc rien à voir. Et donc, ce que je trouve génial dans ce métier, c'est qu'il y a plein de voies d'accès différentes et que ça n'empêche pas justement d'avoir un parcours scolaire, universitaire qui n'est pas forcément uniquement dédié à ce domaine-là, mais d'en avoir un qui est en fonction des impétences des uns et de l'autre et de pouvoir récupérer ensuite à la fin. Et puis, il faut, on dit bac plus suite, mais en fait, il y a quand même 3 années qui sont très opérationnelles,
bien sûr,
très terrain.
Dans le cabinet.
Et du coup, je me dis, je pourrais travailler assez rapidement et donc être vite dans le monde de l'entreprise. Beaucoup de stages, donc non, ça ne m'a pas effrayé. Au contraire.
Maintenant, il y a l'ascension professionnelle. Est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours, en fait, de vos débuts en tant que... Je rentre dans le cabinet, voilà, ces 3 années. Ah, ça y est, j'ai le Saint Graal, je deviens commissaire aux comptes, j'ai enfin mon diplôme.
En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon dernier cycle donc dans l'audit interne. Donc, j'ai d'abord été dans le monde de l'entreprise. Et donc, j'ai fait de l'audit interne. Mais très vite, justement, on m'a dit, attention, la voie royale et le tremplin, ça reste quand même l'audit externe. Vu des entreprises, ils le disent comme ça, donc l'audit légal. Et rentrer dans une structure, un cabinet qui va te permettre justement de développer plein d'entreprises et de grandir. C'était à la fois pour moi l'opportunité de pouvoir justement progresser, continuer à évoluer et en même temps justement de pouvoir commencer mon stage et valider mon stage. On sait, le stage est en partie, il peut être fait en entreprise, mais pas complètement, il faut le faire en cabinet. Et donc j'ai eu la chance de démarrer ma carrière dans un cabinet qui est le cabinet Mazars, où j'ai pu, parce que dans ce cabinet on pouvait justement aller dans plein de secteurs d'activités différents. J'ai d'abord été dans le monde bancaire, ensuite dans le monde de l'industrie, du service, distribution, et ça m'a juste passionné. Je suis tombé amoureux de ce métier. Déjà, j'ai trouvé l'ambiance hyper sympathique, il y a plein d'équipes, on bouge tout le temps, on se déplace, on progresse très vite, on devient manager très très vite. Donc, je dirais, la partie obtention du diplôme, métier commissaire au compte, était presque accessoire par rapport au plaisir que je prenais déjà à vivre ces premières années d'expérience. Donc, l'examen, le diplôme, il était juste une évidence. Et très vite, effectivement, au bout de ces 2-3 ans, j'ai eu envie de continuer, de me dire je pense que je vais rester dans la profession de commissariat aux comptes et d'expert comptable et de pouvoir l'exercer. Alors, je ne savais pas encore si je serais en libéral, si je serais dans un cabinet de moyenne ou grande taille, peu importe, mais j'avais envie d'exercer ce métier-là parce que je trouvais qu'il y avait plein d'éléments d'épanouissement personnel que j'y trouvais dans ce sujet. Donc, de toute façon, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai démarré, je me suis inscrit au stage et les choses sont venues très naturellement, en fait.
Comment vous avez réussi à gérer, en fait, cette partie gestion du stage et travail à côté, en cabinet, qui demande quand même certaines heures? Ça ne vous a pas fait peur des moments ou des moments de doute, peut-être?
Non, parce que je trouve que c'est bien organisé, c'est bien structuré. Encore une fois, je crois que quand on est passionné, en fait, on ne voit pas le temps passer et je n'ai pas eu le sentiment. Je pense que le sujet le plus peut-être... la période la plus difficile, c'est la rédaction du mémoire. Ça, c'est vrai que c'est très chronophage, ça prend du temps, à la fois en amont comme dans la rédaction, mais en préparation aussi. Et donc, je dirais que c'est peut-être ce moment-là. En plus, le hasard fait que je me suis marié, j'ai eu un enfant et ma fille est née l'année où j'ai déposé mon mémoire. Donc, en fait, il y avait, je me souviens, j'étais en train de mettre les premières couches de ma fille au moment où j'étais en train de finaliser les dernières lettres et mots de mon mémoire. Donc, mais c'est resté des très bons souvenirs. Et donc, oui, ça a été une période un peu difficile, mais quelque part, j'en tire une certaine fierté d'avoir réussi à mener de front une vie professionnelle, une vie personnelle et l'obtention de ce diplôme. Donc, je dirais qu'on n'a rien sans rien. Et parfois, ces efforts-là, en fait, ils deviennent sur le moment peut-être des moments peut-être ardus, mais ils deviennent des fiertés demain.
Vous le regrettez pas?
Ah non, pas une seconde. Ouais, pas une seconde. Ouais. Au contraire, je pense que j'aurais... je vois trop souvent parfois des personnes qui se disent oh, « ben, je ferai le mémoire plus tard » parce qu'on a toujours des raisons de reporter, parce qu'on a toujours des contraintes, etc. Alors je comprends hein, parfois pourquoi il faut reporter. Et là, le hasard du timing a fait que la même année, donc la naissance de moi, et j'ai changé de cabinet aussi. Je suis rentré dans un cabinet de taille intermédiaire, de territoire, et j'ai déménagé. Donc j'ai fait tout de front, mais finalement... La vie, c'est comme ça. Il y a les choses, les opportunités arrivent, les virages, les choix de vie se présentent et il faut les faire et on y va. Et bah, quand on y va, ça marche.
Je rebondis justement sur ce que vous venez de dire. Est-ce que la famille, ça aide ? Est-ce que l'organisation aussi, ça aide à ces moments-là ? Parce que vous avez quand même eu un enfant, vous avez déménagé, vous avez changé de cabinet. Ça fait beaucoup. Est-ce que votre entourage vous aide en fait ?
Oui, énormément. C'est juste essentiel. Encore aujourd'hui, j'ai la chance d'être avoir une grande famille avec de nombreux enfants et ils m'ont toujours soutenu, que ce soit d'ailleurs au moment du diplôme et de la rédaction du mémoire, et encore ces dernières années avec cette mandature à la compagnie où il a fallu concilier aussi beaucoup de sujets. Je crois que c'est même un des piliers qui permet de faire fonctionner le système. Et c'est vrai qu'ils sont adorables, ils sont très compréhensifs. Je dirais même les clients l'ont été, parce que quand j'ai accepté, je me suis vraiment investi sur le plan institutionnel et je suis devenu président. Évidemment, ça prend du temps. Parfois, j'avais peut-être pas toujours le même niveau de disponibilité que j'avais pu avoir sur certains clients. Et en fait, ils ont été adorables et très compréhensifs parce qu'ils ont compris aussi ce que je faisais et qu'ils ont vu l'énergie que j'y mettais et ce que j'avais envie de porter par ce projet. Donc, être soutenu par ceux avec qui on vit, la famille, etc., mais avec qui on travaille, parce que ça a été la même chose pour mes collègues, mes associés, mes collaborateurs, c'est juste essentiel. C'est une réussite collective.
Ça, j'en suis sûr. Comment vous êtes passé, vous, maintenant, de « je deviens commissaire aux comptes, ça y est, je suis dans l'entreprise », à président de la CNCC ? Est-ce que vous vous êtes dit « bon, j'ai fait le tour de mon métier, j'ai un peu de temps libre les week-ends, on va essayer de remplir l'agenda ».
En fait, pas du tout. En fait, là aussi, ça s'est fait de façon un peu naturelle. Quand j'ai déménagé et que je suis arrivé en Normandie, je connaissais... absolument pas mes consoeurs et mes confrères de la région. Et donc, il fallait que je fasse un peu ma place, que je fasse des contacts. Souvent, d'ailleurs, les premiers mandats, on les a parce qu'il y a des échanges et donc, faut se faire connaître. En plus, j'étais dans l'Orne, donc c'était pas forcément le département le plus dynamique en termes de nombre d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Et donc, je me suis dit, peut-être la meilleure solution pour aller à la rencontre de mes consoeurs et de mes confrères, c'est de m'investir dans les institutions. Et au début, je suis allé voir la compagnie pour être contrôleur qualité. En me disant, ça c'est super parce que d'abord ça me continue à me faire évoluer et progresser, et en même temps ça va être un moyen d'échanger, de partager avec la compagnie régionale. Donc je me suis investi en tant que contrôleur qualité et puis j'ai pris goût et j'ai appris à connaître les élus. Donc je me suis présenté sur la ligne, j'ai été élu régional, puis après je me suis investi plus, j'ai été vice-président formation et contrôle qualité, et puis voilà. Donc c'est une machine infernale qui s'est emballée parce qu'en fait j'ai trouvé ça passionnant encore une fois, et j'ai fait pas par autre chose que simplement la motivation et le plaisir que je trouvais à aider les confrères, à les accompagner, à défendre la profession. Alors au début à un niveau régional, et puis vous savez comment ça fonctionne, quand on est élu dans une compagnie régionale, très souvent on est amené à être soit au conseil national, soit même dans des commissions nationales, et puis voilà, pareil, j'ai fait des rencontres, et puis je trouvais qu'il y avait des choses que je voulais poussé, et là je me suis dit, là si je veux vraiment les porter et ne pas juste être dans une posture en disant ça serait bien que, mais d'être à la manœuvre et dire maintenant je veux les mettre en place, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire présenter une liste et défendre un projet. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé président de la compagnie nationale, plus porté par l'envie de faire et de porter mes convictions que pour le principe de dire tiens, si un jour je deviens président de la compagnie nationale.
Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre le métier de commissaire aux comptes et président de la CNCC sur ce fameux utilité publique? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu ça au fond de vous en disant il faut que je mette un peu ma pierre à l'édifice pour cette utilité publique, quoi?
Pleinement, mais complètement. C'est-à-dire que quand on est un élu, ceux qui sont élus savent à quel point c'est chronophage et ça demande beaucoup d'énergie et parfois c'est difficile. Donc si on le fait, il faut vraiment avoir la vocation, la foi. Et évidemment, je vous rejoins quand vous dites que quand on embrasse cette profession de commissaire aux comptes, on l'embrasse pour tout ce qu'elle implique. Et effectivement, ce rôle d'utilité publique, c'est ce rôle sociétal, hein, bâtir la confiance dans la société. Donc on sait qu'on porte ça au travers de notre métier. Et quand on devient élu, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on l'est, c'est parce que justement, on a envie de défendre ça, cette utilité, ce rôle, et de pouvoir le dire directement à des acteurs importants, et pour faire reconnaître parfois un rôle qui n'est pas forcément toujours bien perçu, bien compris, ou bien circonscrit. Souvent, parfois, il y a des erreurs. Souvent, on nous confond entre expert comptable et commissaire aux comptes. Et puis, souvent, on réduit notre mission à ce qu'elle est, réduit fortement par rapport à ce qu'elle apporte et ce qu'elle est. Et donc, voilà, dans ce cadre-là, oui, je partage complètement. Il y a quelque chose d'assez de commun, c'est faut la vocation.
Pour faire ce métier, est-ce qu'il y a eu des personnes ou des événements au cours de votre vie qui vous ont inspiré, qui vous donnaient envie de faire le parcours ou peut-être vous orienter dans votre vie professionnelle?
Il y a plus forcément plusieurs personnes. D'abord, les personnes ceux qui ont été mes associés, maîtres de stage ou responsables, qui m'ont aidé à grandir et qui m'ont justement permis de découvrir le métier dans toutes ses dimensions et qui m'ont permis de prendre du recul, d'analyser que derrière la norme, derrière la technique, il y avait la relation client, il y avait l'apport, la valeur ajoutée, etc. Donc ça a été vraiment, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance d'avoir sur le terrain, dans les cabinets dans lesquels j'étais, vraiment des personnes qui m'ont aidé à grandir et à progresser. Et puis, il y a eu aussi tous ceux que j'ai pu rencontrer dans les institutions. Certains que je trouvais, que j'admirais, comme René Ricol, que je trouvais justement le pouvoir de la conviction, le pouvoir politique, la dimension politique qui était associée, mais aussi des élus de territoire. Et je pense surtout à eux parce que je voyais l'énergie qu'ils mettaient et leur attachement à réussir, même dans une commission communication, une communication de la formation, pour aller chercher les confrères, pour aller leur dire, oui, c'est important d'aller se former, c'est important de faire ceci, d'avoir de développer la qualité, de travailler ensemble, de partager, etc. Et oui, je pense que à chaque fois que j'ai eu envie, d'occuper un poste ou de pouvoir réaliser une mission, c'est souvent parce que j'ai vu des personnes le faire avec enthousiasme et y trouver un vrai plaisir. Et donc, c'est ce qu'ils m'ont transmis, c'est ça. Et voilà, donc il y a des personnes comme ça clés qui nous donnent envie et qui disent, il y a une vraie fierté à être ce qu'ils sont devenus ou ce qu'ils ont fait. Et donc, j'ai envie aussi de me dire que tiens, moi, je vais participer à l'effort collectif.
Vous ne posez pas des fois cette question en disant, c'est quand même très énergivore, vous le dites, une mandature, ça doit être fatigant, je ne me mets pas à votre place, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de se concentrer sur son cabinet pour peut-être le développer? Ou au contraire, vous vous dites, intellectuellement quand même, ça m'a apporté énormément, je pense que ça va me permettre pour le futur de me développer encore mieux?
Alors en fait, c'est très juste parce que finalement, le fait de vouloir ou de pouvoir s'investir dans une institution, c'est important. Et finalement, ça m'a obligé à faire deux choses. La première, c'est que du coup, ça oblige à encore mieux s'organiser et ça oblige aussi à mieux déléguer. Et en fait, bien s'entourer, si on ne peut pas partir comme ça, président d'une compagnie régionale ou élu national ou encore plus à la présidence d'une institution, si dans son cabinet on n'a pas structuré les choses pour que ça tourne, et même si on va être encore un peu là, le fait d'être un peu moins là, ça doit se compenser. Donc ça veut dire qu'il faut créer autour de soi une équipe. Et donc d'ailleurs, quand les réussites, elles sont encore une fois les réussites d'un ensemble, d'un collectif qui s'est mis au service du projet. Et donc finalement, non, ça, au contraire, je trouve que ça m'a poussé à encore réfléchir à mon organisation, mieux définir mes systèmes de délégation, mieux optimiser mon temps de travail, gérer les priorités. Donc ça m'a fait grandir en ce sens-là. Et puis vous avez raison aussi quand vous dites que y a un effet retour, c'est-à-dire aussi que tout ce que j'ai pu apprendre ou faire avec ma casquette institutionnelle, ça m'a énormément aussi appris pour m'améliorer dans ma vie professionnelle. Ne serait-ce que dans les échanges que j'ai avec mes clients, le fait que j'ai la chance dans mes fonctions de rencontrer des personnes importantes dans différents milieux, dans le monde de la finance, dans le monde des représentants des entreprises, dans le monde judiciaire, tout ce que je peux, toutes ces rencontres, elles m'enrichissent et donc je pense qu'elles participent à améliorer la valeur ajoutée de ma prestation et du service que je peux apporter à mes clients, que ce soit en tant qu'expert comptable ou en tant que commissaire aux comptes. Donc c'est du gagnant-gagnant.
Quels ont été les plus grands défis que vous avez dû surmonter et qu'est-ce que vous en avez appris comme expérience, en fait? Pas que sur votre mandature, dans votre parcours professionnel général.
Déjà, la première expérience, c'est que quand on a à relever des défis, on ne les relève jamais seul. J'insiste beaucoup là-dessus. J'ai toujours eu la chance d'avoir, soit de faire partie d'une équipe qui a participé à un projet, soit d'en être à la tête, mais je dirais peu importe. C'était vraiment important. Donc, le premier élément des succès que j'ai pu mener, c'est d'abord parce que finalement, on l'a fait ensemble et que ce groupe a réussi. Alors, les principaux succès, c'est difficile de dire est-ce qu'on a eu des succès ou pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont été marquantes. Quand j'ai pris la présidence de la compagnie nationale, on était à un moment où la profession n'était pas au plus haut de sa forme. Elle venait de se prendre l'évolution des seuils. Elle voyait son avenir de manière vraiment très sombre, pensant qu'on allait gérer une sorte de décroissance. On a réussi à remonter le moral des troupes, de montrer que notre utilité, elle était réelle, elle était reconnue, qu'elle avait une efficacité et qu'on pouvait tout à fait envisager l'avenir de notre profession de manière plus large et plus importante avec la durabilité, avec la souveraineté numérique et que c'était une profession d'avenir et pas une profession dont on devait gérer en fait la décroissance. Et ça a été pour moi le succès majeur. C'est ce que je voulais porter. On peut toujours regarder la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Moi, j'ai parti de ceux qui la regardent à moitié pleine. Et à ce titre, je crois qu'on a réussi par les démarches d'attractivité à l'égard des jeunes, par notre évolution de notre système de communication, par les éléments de langage autour de la profession, par le travail de terrain auprès des professionnels et dans les territoires, à redonner un souffle mais extrêmement fort à cette profession. Et elle a extrêmement bien rebondi et j'en suis extrêmement fier. Et aujourd'hui, on est plus en train de se demander comment on va trouver les bras pour faire toutes les missions qu'on a à faire que de se dire comment on va faire pour se débarrasser des collaborateurs qu'on aurait en trop. Et c'est ce qu'on disait il y a 5 ans. On disait, oh là là, on va perdre 10 000 emplois, etc. Et aujourd'hui, on en manque. Donc ça, c'est vraiment, je crois, pour moi, un succès très fort. L'autre que je pourrais citer, c'est celui aussi d'avoir réussi justement à concilier une vie professionnelle pleine de justement et personnelle avec de la vie institutionnelle, de la vie professionnelle. Et je crois que ça, c'est peut-être le plus difficile. Trouver cet équilibre. Alors, je ne dis pas qu'il est parfait. Il y a des moments qui sont plus ou moins faciles. Hein, c'est comme pareil pour tout le monde. Mais je crois que ce qui m'a permis d'avancer et de relever certains défis et d'accéder à certains succès, c'est d'abord parce que le succès d'avoir su justement faire partie des bonnes équipes, de m'entourer des personnes qui m'ont permis d'avancer et de porter des projets passionnants. Et c'est ça que je retiendrai.
Mais sur le premier succès, vous m'avez parlé de... C'était au moment, en fait, avec le relèvement des seuils au commissariat aux comptes. Vous prenez la mandature, et là, vous ne dites pas à un moment « Je vais sur un mandat qui ne va pas être simple. Je vais me casser la tête en me disant « Oula, comment on va faire pour essayer de relancer ?»
Alors, en fait, je dirais que c'était... Même avant, c'est quand j'ai décidé d'être candidat. Je ne pouvais pas me résigner fondamentalement à avoir une vision négative et pessimiste des choses. Et je me dis, de toute façon, il faut y aller. Il n'y a pas de choix, il faut y aller. On ne peut pas laisser continuer les choses comme ça. On ne peut pas laisser entendre qu'on va perdre tous ses mandats, que la profession va disparaître, que les petits commissaires aux comptes dans les territoires vont plus avoir de mandat, donc vont arrêter l'activité, on va passer de 11 500 à 6 000. Enfin, je ne pouvais pas me résoudre à ça. Donc j'étais tellement, touché par ce qui nous arrivait et je me suis dit, il faut se battre jusqu'au bout. Et quelque part, quand on est dans le combat, eh ben, on n'a pas le temps trop de se poser de questions. On doute. Hein. Il y a certains jours, on se dit, est-ce qu'on fait les bonnes choses? C'est normal, il faut douter. Si on ne doute pas, c'est que ce n'est pas bon. Mais c'était un peu en mode combat. Il fallait y arriver. Et j'avais cette conviction profonde qu'on avait des fondamentaux qui nous permettraient de réussir. Parce que ce qu'est notre métier, ce qu'est notre rôle, ce qu'est notre profession, ce n'est pas un truc qui n'existe qu'en France, ça existe partout dans le monde entier. Le rôle de l'auditeur légal, son importance, la confiance, l'élément de confiance. Donc il y avait tellement un socle évident et tellement pertinent que on avait de quoi construire sur ce socle. Mais fallait revenir aux fondamentaux et repartir. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est je crois qu'on quand on se donne dans un projet qu'on a une ambition, comme certains disent tiens moi je vais faire un marathon, je suis pas sûr qu'ils aient forcément conscience de ce que ça va impliquer, des moments de doute et des difficultés qu'ils vont y avoir, mais en fait, ils ont envie d'aller jusqu'au bout, et ce qui les porte, c'est le fait de dire « je sais pourquoi je le fais » et ce qui m'a motivé, ce qui m'a engagé dans cette démarche. Et donc, quand on y va, on démarre, on court et on va jusqu'au bout, et on termine le marathon. Et ben, c'était un peu comme ça. Je me suis pas trop posé la question « j'avais envie de faire », et en fait, je me posais toujours la question à l'inverse, en me disant « de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, et si je fais rien, ça ne se passera rien. Donc, il faut agir. » Agissons. Et puis on verra si ça apporte ses fruits. Ça a apporté ses fruits, tant mieux. Mais quand on n'a plus rien à perdre, on y va. Faut y aller.
Vous êtes un homme d'action.
Je sais pas, j'essaye.
Moi, je voudrais aller sur le présent maintenant. À quel moment vous avez ressenti que vous aviez réussi professionnellement? Est-ce qu'un jour, vous êtes levé en disant « Ah, quand même, là, c'est bien, ma vie est complète, j'ai une famille, j'ai un bon travail, je suis content. »
Je crois jamais. Je crois que je n'ai jamais eu ce sentiment-là de me lever le matin en me disant j'ai réussi professionnellement. Parce que d'abord, je trouve qu'on est dans cette profession, on est beaucoup à bosser énormément et à être dedans. Et c'est rare qu'on se pose, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que j'ai eu la chance d'être honoré par...
Oui, c'est un bon parcours quand même, vous avez.
Mais c'était intéressant, cet événement-là, parce que c'était un moment où on s'est posé 5 minutes, justement, j'ai dû écrire mon discours, et finalement, ça m'a obligé à faire une rétrospective. Donc, il y a des événements comme ça, où finalement, on regarde le chemin parcouru. Mais plus que de me dire le succès, j'ai plus un sentiment de dire, tiens, je suis quand même fier de ce que j'ai pu à réaliser. Je me dis souvent, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire tout ça. Et je me surprends moi-même. Mais le sentiment du succès, pour moi, est quelque chose qui m'est un peu désagréable parce que j'ai l'impression que finalement, ça pourrait dire que je suis arrivé au bout. Et je suis pas au bout encore. Et je dis qu'il y a encore plein de trucs à faire. Et donc, j'en suis pas encore là à me dire, tiens, super, ça y est, j'ai réussi, je suis un homme épanoui. Et puis, la vie fait que on sait tous que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Je pense qu'il faut rester très humble sur ce sujet. Et on croit toujours à retrouver l'équilibre. Puis il y a toujours un petit événement qui fait que l'équilibre à nouveau tombe. Donc je préfère pas prendre le risque de me dire ça y est. Mais par contre, un sentiment de fierté, oui. Du travail accompli et du chemin parcouru. Ouais.
Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vos enfants sont fiers de vous quand on parle de papa?
Je sais pas, je crois que oui quand même, parce que, alors ce qui est marrant, c'est que ils me le disent pas forcément, mais parfois j'ai un camarade d'école qui arrive et qui dit « Ah, votre fille ou votre fils, il m'a parlé de vous, il m'a montré des vidéos ». Et là, je vois, je me dis « Bah tiens, si il est allé en parler à ses copains, et tiens, mon papa, il est passé, ou je sais pas, sur BFM, ou j'en sais rien, peu importe », c'est qu'il y a un petit peu de fierté. Donc oui, je pense qu'il y a une part de fierté forcément. Mais c'est la pudeur fait que c'est pas tous les jours dire papa t'es super, non c'est pas ça, c'est plutôt j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais oui, je crois que quand même indirectement, et ils me l'ont dit aussi au moment là aussi de la remise de la décoration, je pense que c'était justement, c'était un moment un peu émouvant pour ça, parce que encore une fois, on est comme on est, c'est rare qu'on se dise forcément les choses, la pudeur est toujours là, ce que je disais. Et donc oui, je pense qu'ils doivent l'être, en tout cas j'espère.
Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Vous avez parlé tout à l'heure, c'était important, l'une de vos réussites, c'était de gérer la vie personnelle et professionnelle. Comment vous vous organisez pour faire la vie perso, le cabinet et votre mandature? Donnez-moi les techniques pour gérer tout ça, tout ce planning.
Il n'y a pas de recette miracle, mais quand je vous posais cette question, ça m'oblige à me dire oui, comment on a fait? En fait, je crois que ça s'anticipe. D'abord, il y a un maître mot, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la dernière minute, ça s'organise très en amont. Voilà. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut effectivement organiser les choses, notamment par la délégation. C'est-à-dire qu'effectivement, faut avoir autour de gens, faut pas y aller seul, faut y aller avec des gens qu'on prévient avant, à qui on prend le temps d'échanger avec eux. Donc voilà ce qui va se passer. J'ai envie d'aller là. Est-ce que tu me suis? Voilà les conséquences sur certains. Moi, j'ai pas pu garder tous mes mandats de cadre. Je les ai transférés à mes jeunes associés. Voilà, c'était normal. Sinon, c'était mettre en péril l'activité, hein, parce que si je suis pas présent près de mes clients, c'est pas bon. Puis je fais pas bien mon travail. C'était aussi, on parlait avec mes collaborateurs. Alors, vous savez, je serais peut-être moins présent. Certains de mes clients, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc j'ai joué la transparence aussi, hein, en disant peut-être que je serais moins disponible. Voilà, mais j'aurais parlé de mon projet, j'aurais parlé de mon envie, etc. Et donc ça, je pense que ça veut dire aussi que dans les moments où, quand ils sont parfois plus ou moins compliqués, ils se rappellent et on a anticipé et ils savent pourquoi ce sujet-là arrive. Après, il faut des personnes qui justement vous soutiennent, vous font confiance. Il faut s'organiser. Ça, c'est vrai que c'est très, très militaire. Hein. C'est du 7 jours sur 7, hein, ça, c'est clair. Faut s'organiser, trouver des moments. Donc, en fait, on réfléchit à chaque moment, c'est-à-dire qu'on essaie de donner du qualitatif dans chaque moment qu'on passe, que ce soit dans la vie, encore une fois, personnelle comme professionnelle. On peut être très beaucoup à la maison et puis finalement pas forcément créer du lien, et on peut y être, et quand on y est, on y est. Donc c'est ce que j'ai essayé de me donner comme, comme objectif, c'est de dire si tu es à la maison, tu te reposes pas, tu profites de ce temps-là où tu vas être avec tes enfants. Alors j'ai 6 enfants à la maison, hein, parce que c'est du boulot.
Quand même.
Voilà. Après j'ai une femme formidable, tout ça, qui travaille aussi beaucoup en plus. Je dis pas qu'on n'est pas un peu fatigué là, et que cette fin de mandature va être l'occasion de se poser un peu. Je dis pas que tout a été parfait et que ça a roulé comme sur des roulettes partout, parce qu'il y a beaucoup de déplacements aussi. Mais voilà, l'anticipation, l'organisation, et puis le troisième mot clé, c'est la priorisation. C'est-à-dire que ça oblige à trier, même dans les rendez-vous, dans les personnes qu'on rencontre, les actions qu'on mène. Et donc ça, là aussi, je parlais, vous posiez la question de peut-être de ce que ça m'a apporté ou de ce que ça m'a appris. C'est clair que là, on n'a pas le choix de prioriser, parce que si on s'éparpille, si on ne fait pas les bons choix, eh ben, très vite, on se retrouve débordé. Donc si on veut rester focus sur ses objectifs, si on veut rester droit dans ses bottes par rapport aux objectifs qu'on s'est assignés, eh ben, il faut prioriser et aller à l'essentiel. Ça, c'est vraiment, je crois, le point particulièrement d'attention. Encore une fois, aussi bien sur le plan professionnel, au cabinet, en tant que président d'institution, comme à la maison.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à la nouvelle génération qui souhaite suivre votre chemin ?
Moi, je fais partie de ceux qui pensent que je ne suis pas grand. Chaque chemin est très particulier. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'aurais. D'abord, jamais pensé avoir fait tout ce parcours. Et puis, en même temps, je savais pas. Je m'étais jamais dit, quand j'ai démarré ma carrière, tiens, je vais la démarrer et j'arriverai président de l'institution. Enfin, c'était même pas dans ma tête à ce moment-là, contrairement au fait d'embrasser le métier, oui. Et donc, je crois qu'en fait, le meilleur des conseils, c'est le seul, à mon avis, qui marche, c'est de ne pas avoir peur d'y aller. Et de suivre son instinct, d'être fidèle à ses convictions, et quand on est fidèle avec ses convictions, ben on avance forcément, et en fait ça vient naturellement, et si les choses doivent se faire, elles doivent se faire. Donc je discute beaucoup avec des anciens présidents, et on a tous des chemins très différents et des parcours très différents. Donc en fait, il y a pas de règle, il y a pas de recette unique, il y a chacun un parcours. Par contre, il y a effectivement un élément central à tous nos parcours, c'est que on y est allé, et que on y est allé avec le cœur aussi, et que voilà, et je pense que ce qui fait que parfois on n'y arrive pas, c'est pas la compétence, c'est pas l'énergie, c'est parfois la peur de ne pas y aller. Et donc je pense que le seul conseil que je peux leur donner, faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Faut s'investir dans les institutions, faut prendre des risques, même dans la gestion de leur cabinet, dans leur organisation. Et il faut tenter. Si on ne tente rien, il ne se passe rien. Donc allez-y, tentez. C'est le seul conseil que je pourrais donner.
Est-ce que vous avez dit dès le début aussi, il faut oser en fait. Il n'y a pas de limite, mais on ose. C'est plutôt comme ça que vous pensez ?
Il faut oser. Après, oser, c'est pas. C'est pour ça que je parlais beaucoup de collectif et d'équipe. Parfois, c'est plus facile d'oser quand on a une équipe autour de soi. Parce que faut oser, oui. Alors, il y en a qui ont le caractère pour ça, qui ont le profil, ils sont fonceurs. On n'est pas tous fonceurs. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas fonceur qu'on peut pas réussir. Et donc, oser, ça veut dire aussi se donner les moyens de se mettre dans les conditions pour pouvoir oser. Donc oui, oser, c'est se faire confiance, c'est y aller. Et alors, qu'est-ce qu'on risque ? Voilà. Au fait, au bout du bout, si on le fait pas. Et si on n'est pas fonceur parce que par nature on n'est pas justement facile. Casse-cou, eh ben, il faut s'entourer de gens qui vont vous donner confiance, qui vont vous pousser positivement et qui vont vous aider à avancer. Et moi, j'aime bien cette idée-là parce qu'en plus, du coup, ça crée le collectif dès le départ.
Ça demande de l'organisation. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un certain âge aussi ? Peut-être se laisser le temps aussi à oser, mais peut-être construire pas à pas son cabinet, que ça tienne, ça fonctionne. Et après, hop, on passe sur le côté peut-être politique. Pas du tout. Hein.
Je sais pas. Moi, je crois pas. J'ai débarré assez tôt. J'ai dû me présenter à la présidence de la compagnie. J'avais 44 ans, ce qui est pas si jeune, mais c'est pas si vieux quand même. Quand je me suis retrouvé à postuler pour la première fois en tant qu'élu à la compagnie régionale, je venais d'arriver. J'avais 27, 28 ans, peut-être 29 ans, quelque chose comme ça.
D'accord.
Sur ces eaux-là, j'en sais rien. Je crois pas. Je crois qu'il faut. Après, bien sûr, chacun a son rythme. Là, encore une fois, chacun ses priorités. Mais il y a plein de possibilités dès le plus jeune âge dans la vie professionnelle de pouvoir justement s'investir en profession. Mais je pense que plus vite on enclenche la machine qui va nous permettre de faire des belles rencontres, qui va nous permettre de construire notre projet professionnel et nos envies, mieux c'est. Donc moi j'aurais tendance à dire non, il ne faut pas forcément se dire il y a un chemin, il faut avoir un certain âge, etc. Et je vois dans les institutions des jeunes qui sont déjà bien impliqués. Souvent, ils s'impliquent dans l'annexe CGEC, mais pas uniquement. Ils sont aussi dans les compagnies régionales ou dans les ordres régionaux. Et on voit bien que c'est souvent ces jeunes qui sont investis tôt, ben c'est eux qui grandissent plus vite. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre. Non, je ne crois pas qu'il y a... Après, pour être président d'institution, c'est un parcours, évidemment. Parce que sinon, mais ça, c'est naturel. Mais plus tôt on démarre, mieux c'est, moi, je crois.
Moi, j'avais une question pour vous. C'est quoi un CAC? C'est quoi l'archétype du commissaire aux comptes d'aujourd'hui pour vous?
Pour moi, un commissaire aux comptes, c'est... Donc un bâtisseur de la confiance, ça c'est important. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a construit au niveau de la compagnie nationale. C'est-à-dire que souvent on nous confondait avec les experts comptables, je le disais tout à l'heure, et c'était problématique. C'est quoi un bâtisseur de la confiance? C'est un commissaire aux comptes, c'est une personne qui, du fait de sa présence, du fait de sa signature, va permettre à des acteurs économiques qui vont prendre des décisions de prendre les bonnes décisions, en tout cas prendre des décisions en connaissance de cause. Pourquoi ? Parce que du fait de notre présence, l'information dont elles disposent pour prendre leurs décisions est fiable, sincère et fidèle. Et comprendre ce que c'est un commissaire aux comptes, c'est comprendre que dans ce monde, même si justement les choses, tout n'est pas procédure, tout n'est pas dans les processus, tout n'est pas dans les procédures, il y a quand même de l'humain. Et que l'humain, ça repose... fonctionne bien quand il y a la confiance. Et la confiance, elle repose par le fait qu'à un moment donné, bah, j'ai les informations et les bonnes informations et qu'il n'y ait pas justement des filtres qui veulent changer, modifier ce qu'est la réalité. Et donc, un commissaire aux comptes, c'est un acteur de la confiance dans la mesure où, dans l'économie, du fait de sa présence, il permet le beau fonctionnement des processus décisionnels au service du développement, de l'investissement, du fonctionnement associatif, etc. etc. Et quelle que soit la qualité de l'information, c'est-à-dire qu'elle soit financière, extra-financière, qu'elle soit liée au numérique, peu importe. Et c'est ça ce qu'est un CAC aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment cette huile dans les rouages, cet acteur qui va faire que finalement l'économie va mieux fonctionner parce qu'il y a un climat de confiance, il y a une sérénité et que du coup les décisions qui seront prises justement de manière pertinente grâce à la qualité de l'information.
Vous pensez que le commissaire aux comptes va prendre encore plus de place à l'avenir avec tous ces domaines extra-financiers, comme vous parlez, l'environnement, l'intelligence artificielle, on est en plein dedans actuellement, l'informatique de manière générale?
Oui, je crois qu'on a une place à prendre, en tout cas je pense qu'on l'a prise. Quand les débats sur la durabilité sont arrivés, quant à l'audit de ces données, on n'a pas forcément systématiquement tout de suite pensé à nous, et en fait très vite quand on a expliqué qui on était, comment on fonctionnait, on s'est dit bah oui, mais c'est vous les acteurs évidemment incontournables pour ça. Et donc, il ne faut pas qu'on confonde ce qui est parfois une méconnaissance ou de notre profession, de notre rôle, et qui fait qu'on ne fait pas systématiquement toujours appel à nous, avec finalement la réalité effective de l'efficacité de notre présence. Et là, je crois que oui, on est dans un monde de défiance de plus en plus, malheureusement. Un monde qui demande de plus en plus de transparence, que derrière les sujets de bonne gouvernance, les sujets de ESG, il y a un sujet de transparence qui est très fort. Le citoyen attend la transparence, à juste titre. Le consommateur attend la transparence. Les banquiers, les investisseurs qui sont de plus en plus internationaux. Donc, oui, je crois que l'importance de la présence du commissaire aux comptes comme un acteur de la confiance, de la transparence, de la sécurité économique et financière. L'état de droit est une notion qui revient beaucoup en ce moment dans tous les pays du monde. Et il ne faut jamais oublier qu'on est un des acteurs de l'état de droit. Et donc, je crois, oui, beaucoup en l'avenir de notre profession et en tout cas son utilité et l'efficacité de sa présence au sein de l'économie.
Je voudrais avoir votre avis sur votre futur. Là, vous êtes à la fin de votre mandat. Quels sont vos projets pour cette fin d'année 2024?
Alors, pour fin 2024, déjà, on va accompagner la transmission quand même, parce qu'effectivement, mon successeur va arriver, prendre ses fonctions le 1er novembre, mais on a des assises qui vont arriver début décembre. Donc, vous imaginez bien que les assises, c'est comme le congrès.
Ça se prépare avant.
Ça se prépare un peu. Et donc, je vais, s'il a besoin de moi, si la nouvelle mandature a besoin de moi, mais je pense qu'effectivement on va continuer et finaliser quand même cette opération qui a permis de construire ces assises. Je vais aussi un peu me poser, prendre du recul sur. C'est assez intéressant de refaire un peu le parcours de ces quatre années, de ce qu'on a réussi à faire, de faire un peu le bilan, de se renourrir un peu, parce que c'est vrai qu'on est un peu la tête dans le guidon, donc c'est bien par moment aussi de se poser et de regarder, on l'évoquait tout à l'heure, hein, un peu en arrière et d'apprécier ce qu'on a fait, de se dire tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, etc. Donc je vais plutôt être dans une phase effectivement d'atterrissage et puis passer un peu plus de temps avec ma famille, voilà, parce qu'ils ont le mérite bien, parce que j'ai très envie, parce que ces quatre dernières années, ils ont été extrêmement compréhensifs, donc je leur dois aussi du temps, et puis accessoirement, j'ai aussi un cabinet, hein. Et donc voilà, donc déjà, ça fait déjà beaucoup de choses à mettre en place avant de pouvoir se renourrir pour envisager d'autres projets.
Et justement, où vous voyez-vous dans 10 ans?
Aucune espèce d'idée. Je dirais que de la même façon que ces 10 dernières années, je me laisse. Alors j'ai des sujets qui m'intéressent beaucoup.
Vous ferez du commissariat aux comptes encore ?
Ah bah oui, je vais continuer à exercer mon métier d'expert comptable commissaire aux comptes. Ça c'est une évidence. J'ai la chance de diriger un cabinet et ça me passionne et ça c'est super. J'ai des super associés, super collaborateurs. Donc ça je vais continuer bien sûr à exercer ce métier. Ça je ne demanderai pas. Après, la question, c'est qu'est-ce que je continuerai à faire au-delà de ce rôle d'expert comptable et de commissaire aux comptes. J'ai des sujets qui me passionnent beaucoup, sur les sujets, bien sûr, de souveraineté numérique, sur les sujets de bonne gouvernance d'entreprise, d'administration d'entreprise. Il y a besoin d'aider le monde entrepreneurial face au sujet quand même de l'aide des lourdeurs administratives et des contextes économiques compliqués. Donc il y a plein de choses à travailler sur ces aspects-là de productivité, d'efficacité. On en a bien besoin. Hein, la croissance économique est aujourd'hui extrêmement faible. Et donc il y a plein de choses passionnantes qui peuvent être réalisées. Donc je suis sûr que dans les années à venir, des projets se présenteront à moi et si de la même façon que par le passé ils me plaisent et ils me donnent envie, j'irai.
Ce serait possible de vous retrouver un jour au H2A ou dans une autre institution de ce niveau-là, en se disant j'ai fait le niveau national, est-ce que essayons en haut aussi, pourquoi pas?
D'abord, parce que je ne considère pas que le H2A est au-dessus de nous.
Très bonne réponse.
Je considère que c'est un régulateur. Non, pas forcément au sein d'un régulateur. Je préférais être plus, je me sens plus proche du monde économique, des entreprises. C'est plutôt dans ce monde-là que je me vois m'investir plus que dans les institutions des régulations. Je suis un homme de terrain et je veux rester. J'aime être au contact des entrepreneurs, des entreprises, et c'est plutôt dans ce monde-là que j'ai envie de travailler et de continuer à avancer.
Je vous remercie, mais juste avant de vous laisser, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, le jeu Confession intime, pour apprendre à mieux vous connaître. Donc, je vais vous poser une série de questions et vous devrez me répondre par plus ou moins. C'est parti ?
C'est parti.
Travaillez-vous plus ou moins de 50 heures par semaine ?
Je pense un peu plus quand même, oui.
Ça m'aurait étonné, moins de 50. Est-ce que vous avez plus ou moins de 10 amis proches ?
Oui, plus.
Au niveau du sommeil ?
Important l'environnement,
oui.
L'entourage.
Au niveau du sommeil, est-ce que vous dormez plus ou moins de 8 heures ?
Ah ouais, là, par contre, je ne dors pas beaucoup. Non, moins, beaucoup moins.
Mais ça, j'ai remarqué avec toutes les personnes que j'ai interviewées, souvent, vous dormez peu.
Ouais, c'est pas bien d'ailleurs. Hein. C'est très mauvais pour la santé, mais c'est vrai que je dors plutôt 5-6 heures maximum. Oui.
Au niveau des congés annuels, est-ce que vous prenez plus ou moins de 5 semaines ?
Ah oui, je prends plus de 5 semaines. Ouais. Ouais, pour moi, c'est fondamental. D'abord, je crois, je ne sais pas si j'ai le droit de commenter par rapport aux réponses, mais je pense que c'est fondamental de se poser et de se reposer. Je pense que c'est bon. Et oui, je prends plus que 5 semaines. J'ai besoin d'avoir ces pauses-là. Elles sont importantes. Et je pense d'ailleurs que si je ne le fais pas, je ne vais pas être très bon et très productif. Donc en fait, je pense que ce n'est pas forcément un bon signe et une bonne méthode que de ne jamais se partir en congé. Donc,
c'est plus des petits moments étalés ou c'est deux semaines?
Non, c'est assez difficile avec nos agendas d'avoir des longues périodes, à part la période estivale où là, on peut arriver un peu à se poser. C'est plutôt des petits moments que je me réserve et qui me ressourcent. J'essaie de me déconnecter comme on peut, mais voilà, et ça fait du bien. Et je pense que du coup, je repars de plus belle.
Et la dernière question, vous envisagez de prendre la retraite à plus ou moins de 65 ans?
J'aurais tendance à dire, répondre, enfin, non, j'ai réponse de Normand, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'aurais envie de m'arrêter avant 65 ans. Ce qui est possible, c'est que j'aurais peut-être d'autres projets différents. C'est-à-dire que je ne me refuse pas de me dire que, même si je veux à 62 ans, de repartir vers un autre projet, mais peut-être un peu différent. Donc, j'aurais tendance à dire plus de 65 ans, mais pas forcément dans une forme de linéarité avec encore plusieurs. Plusieurs projets qui peuvent se présenter.
Ben, je vous remercie, Yannick Olivier.
Merci, merci beaucoup.
On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure à un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.